J'ai un voisin qui habite seul. C'est une grand-mère. Elle n'est pas d'enfant, pas de petit enfant.
Elle finira sa vie seule.
Je connais une vieille dame. Elle a un fils qui habite loin. Il n'était jamais là pour elle. Un jour, elle a glissé dans la neige. Elle a resté paralysée.
Il a fallu cet accident pour qu'il revienne s'occuper d'elle.
La solitude, parfois, c'est un besoin.
Parfois, on n'a personne à qui parler.
Nous sommes la classe de FLE du collège Simone Veil. On est tous arrivés en France cette année.
On apprend le français.
On s'adapte
à la culture française.
On a tous eu des moments de solitude depuis qu'on est parti de chez nous.
Donde me siento en casa es en Marruecos, donde voy de vacaciones a ver a mi familia.
On va vous parler
solitude.
Racontez-nous un jour où vous vous êtes senti très seul.
Mon Dieu, quelle histoire! Ben là, je ne sais pas du tout. Un jour où je me suis sentie très seule, quand mes enfants sont partis et quand mon mari est parti.
Parce que là, je suis en stage, des fois, ça arrive quand je ne comprends rien de me retrouver tout seul. Quand tu ne comprends rien, c'est compliqué.
Un moment de solitude, c'est quand je suis arrivée à Montpellier et que je me suis retrouvée toute seule, ne connaissant quasi personne. Et là, ça n'a pas été facile de rencontrer des gens, de leur parler, parce qu'il n'y avait pas encore des jeunes qui faisaient des interviews sur la solitude. Et ça, ça a été un moment difficile.
Merci.
Merci, au revoir.
Je m'appelle Sophia et ma sœur jumelle, elle s'appelle Fela. Des fois, au collège Simone Veil, je me sens seule, je n'ai pas d'amis. Ma sœur vient et on reste toutes les deux. J'ai de la chance d'avoir une sœur jumelle. En Algérie, j'avais beaucoup d'amis, à l'école et en dehors. Je restais plus avec mes amis qu'avec ma sœur. Fela aussi avait beaucoup d'amis. On n'est resté pas toujours ensemble. Je me souviens d'un jour où je suis restée toute seule à la maison. Je n'ai rien fait parce que Fela, elle n'était pas là. J'aime ma sœur et j'aime rester avec elle. En Algérie, je suis restée chez ma tante pendant un mois sans Fela. Il y avait mes cousins, mes cousines, j'ai beaucoup rigolé. Et du coup, ma sœur me manquait pas. Si Fela rentre vivre en Algérie sans moi, je serais très très triste. Je n'ai pas l'habitude d'être seule, c'est vrai que ça me fait peur.
Je m'appelle Fela, ma sœur jumelle s'appelle Sophia. Depuis qu'on est nés, on a toujours été ensemble. En Algérie, on n'était pas dans la même classe. Et mon père est allé voir le collège pour qu'on soit ensemble. Moi, ça ne me dérangeait pas. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. J'aime bien quand on est séparés une journée. Parce que je suis tranquille et je fais ce que je veux. Sophia n'est pas là pour me faire le chantage ou pour me commander. Une fois, on était séparés un mois. On n'avait pas le téléphone. On n'a pas pu parler. Elle m'a beaucoup manqué. Avec ma sœur jumelle, on se connaît par cœur. Souvent, on est d'accord. Quand on est ensemble, on met l'ambiance. Moi, j'ai pas peur d'être seule. Mais j'ai peur qu'on se sépare plus tard.
Nous sommes devant le couvent Carmel le Buissonnet.
On va au parloir.
Bonjour.
Je vous conduis au parloir.
D'accord.
C'est une pièce où les personnes viennent discuter avec les sœurs. Vous allez discuter à travers une barrière, une grille.
Bonjour.
Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ?
Alors, moi, je m'appelle Sœur Marie-Josée.
Moi, c'est Marie-Pionha. Je suis venue de la Corée.
Comment vos parents ont réagi quand
vous leur annoncez que votre choix était d'être religieuse.
Ma famille, ma grand-mère, ma mère, donc bouddhiste, hein, bouddhiste. Donc à 20 ans, j'étais baptisée. Donc moi, j'étais la seule chrétienne. Avec mon baptême, avant mon baptême, déjà, j'ai pensé ma vie. Ce n'est pas le mariage avec un homme, mais une consacrée à Dieu. Donc, en réalité, de la part de la famille, il n'y a personne qui a pu me comprendre. Maman beaucoup pleurait. Maintenant, tout le monde accepte. Aussi, presque toute ma famille est devenue catholique. Donc maintenant, ce n'est pas simplement qu'ils m'acceptent, mais pour eux, maintenant, c'est une grâce. Ils considèrent, ils me respectent. Voilà.
Pouvez-vous décrire votre chambre?
Alors, notre chambre, elle n'est pas très grande. Et donc, il y a le lit. Il y a une table pour écrire. Il y a quelquefois, il y en a certaines ont une petite armoire pour mettre le linge. Et puis le lavabo, c'est très simple. Et puis il y a quand même où on peut, un endroit où on peut mettre la Bible, le livre, voilà. C'est un lieu privé, quoi. Oui. Voilà.
Qu'est-ce que vous arrivez à faire que quand vous êtes seule?
Mais on est souvent seul, sauf au moment des deux, après le repas, sinon on est seul. On travaille seul.
Ça nous permet, ça nous aide de bien rentrer dans notre intérieur.
Donc, ces temps de solitude, comme elle dit, nous permettent de nous ressourcer.
Oui.
Voilà. Mais ça nous permet, après, quand on est en communauté, d'être en paix. Parce que si intérieurement on est en paix, même si quelquefois, bon, c'est inévitable, en vie communautaire, quelquefois on se chipote. Hein. Mais ça ne dure pas, disons.
Donc sans solitude, on ne peut pas vivre en communauté.
Merci beaucoup.
À Bouscou, en Algérie, je vivais chez ma tante. On était 19. À Montpellier, on vit à 3. À mon arrivée en France, j'ai beaucoup pleuré. Moi, je ne voulais pas venir là. Mais maman et ma sœur, ils m'ont dit de partir, que c'était mieux pour les études. J'ai pleuré parce que j'ai laissé maman, deux frères et une sœur. Je suis restée à Paris un mois et ensuite j'ai déménagé chez Kira à Tours. Là-bas, je suis allée à l'école. C'était difficile parce que je ne parlais pas français. Ensuite, Kira a décidé de déménager à Cournonsec chez une troisième sœur, Sharifa. J'étais contente parce que je pouvais jouer avec mes cousins, Yanis et Adam. Je suis restée un mois à l'école primaire. Yanis, mon cousin, il m'a aidée à me sentir moins seule. Il a expliqué aux autres que je ne parlais pas bien français. À la rentrée, j'ai déménagé troisième fois à Montpellier avec Kira et mon frère. Sans mes cousins, je me sens parfois seule. Parce que ma sœur travaille. Alors je fais mes devoirs, je vais à l'entraînement de foot ou je joue avec mon voisin. À l'arrivée, dans ce collège, c'était plus facile parce que je parlais mieux français. Maintenant, je ne veux plus changer le collège car j'ai des amis, enfin. Sauf si c'est pour rentrer en Algérie car là-bas, j'ai encore plus d'amis. Et puis là-bas, il y a maman, ma sœur et mes deux frères que je n'ai pas vus depuis un an. Heureusement, je retourne en Algérie pendant les grandes vacances.
Qu'est-ce que vous êtes fière de savoir faire tout seul? Alors, qu'est-ce que je suis fière de savoir faire toute seule? Ben, je suis maman depuis des années et j'ai tout appris toute seule et je suis très fière de moi. Paraît-il, je suis une très bonne mère. Voilà.
Le ménage, la cuisine, surtout la cuisine, voilà, pour mes petits-enfants. Faire des gâteaux. Voilà, fière après d'aller me promener encore en voiture, voilà, vu mon âge. Enfin, je n'ai pas 90 ans, mais bon.
J'ai voyagé en Afrique, en Amérique, en Asie, toute seule.
Je fais beaucoup de choses toute seule. Je me débrouille, j'essaye de me débrouiller toute seule, malgré mon âge, mes 74 ans.
Me prendre en main, me préparer à manger, moi tout seul. Il faudrait apprendre ça dans la vie, hein. Être autonome, ne pas dépendre des autres.
Des choses simples de la vie quotidienne, comme aller faire les courses, le ménage, des choses de la vie tous les jours.
Ouais, s'occuper de son appart, arriver à gérer la vie tout seul, quoi.
On est vraiment indépendante.
Il y a toujours quelqu'un. Sans quelqu'un, il n'y a rien. Soit les enfants, soit la femme, soit les frères, soit le père, soit obligatoire, il y en a quelqu'un sur le côté.
Je suis fier, j'ai fondé une famille. Bon, moi, je suis parti de rien, mais vraiment, vraiment, vraiment de rien. Bon, j'ai acquis une expérience vraiment très, très difficile et je suis parti de rien. Maintenant, j'ai fondé une famille, j'ai une voiture, je travaille. Bon, voilà.
En Albanie, j'habitais dans la capitale, Tirana, avec mes parents, avec ma sœur. Maintenant, j'habite dans un hôtel avec 50 personnes, tous mineurs. À l'école en Albanie, c'était catastrophique. Il n'y avait pas beaucoup de travail, il y avait de la corruption. Alors, j'ai décidé de venir en France. Mes parents n'étaient pas d'accord avec mon projet. J'ai travaillé pour gagner de l'argent et je suis partie seule, sans le dire à personne. J'ai voyagé avec une famille albanaise jusqu'à Paris. Ensuite, j'ai pris le TGV tout seul jusqu'à Montpellier. C'était stressant. Le premier jour, j'ai dormi chez une amie. Puis, je suis allée en foyer. C'était dur. J'ai pleuré non-stop pendant un mois. Parfois, je voulais rentrer en Albanie. Je ne voulais pas le dire. J'avais 14 ans. Je ne connaissais rien. Je ne savais dire que « ok, ok ». Pendant un mois et demi, je n'avais pas le droit de sortir. Après, le juge m'autorisait à aller au collège. Un mois après, j'ai eu le droit de sortir tout seul. Mais les règles étaient très strictes. Depuis 7 mois, je suis à l'hôtel. Je suis plus libre. Si je me comporte bien, j'aurai des papiers français. Et j'essaierai de faire venir ma famille, qui a beaucoup fait pour moi jusqu'à mes 14 ans. Maintenant, je me sens moins seule. Je parle avec ma famille tous les soirs. À l'hôtel, je reste avec 4 Albanais, un Algérien, un Guinéen. Ensemble, on rigole, on joue, on sort. Au collège, le 4e et le 3e, ils sont mes amis. Et je connais tous les Albanais à Montpellier.
Nous sommes la radio.
Oui.
Nous voulons voir le directeur.
Je vous fais patienter un petit instant.
Oui. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter?
Donc moi je suis Frédéric Gall, je suis le directeur de l'association qui s'appelle Le Refuge et qui est basée à Montpellier.
Qu'est-ce que vous faites dans la journée?
Alors dans la journée, je m'occupe de chercher des sous. Je m'occupe d'accompagner des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Qui sont hébergés ici et qui se retrouvent exclus de chez eux parce qu'ils sont homosexuels ou que les parents ont découvert qu'ils étaient homosexuels. Et moi, je m'occupe de leur trouver un hébergement.
Combien de personnes accueillez-vous au refuge?
Alors, on accueille beaucoup de personnes au refuge. Au niveau national, on accueille à peu près 280 personnes en hébergement. Et on a reçu plus de 700 demandes d'hébergement.
D'où viennent les personnes que vous aidez?
Alors, les personnes qu'on aide, elles viennent de toute la France, mais elles viennent aussi d'autres pays. Albanie, Maroc, Algérie, c'est les trois principales qu'on accueille. Après, on a à peu près une trentaine de nationalités au refuge, mais on a quand même majoritairement des gens du Maghreb principalement.
Comment vous les aidez?
On les aide en proposant d'abord un hébergement, on propose un accompagnement social, On propose un accompagnement psychologique, c'est-à-dire une psychologue qui va les aider à parler, à discuter. Et on propose ensuite une aide au niveau de tout ce qui est réinsertion, trouver un travail et être autonome.
Est-ce qu'on peut visiter ?
Alors ici, en fait, dans les locaux où vous êtes aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le siège, c'est-à-dire son écho administratif. Après, il y a un autre lieu en plein centre-ville où là, vraiment, on a un accueil, ce qu'on appelle l'accueil de jour. C'est-à-dire que c'est les jeunes qui vont pouvoir venir la journée, qui vont pouvoir accéder à des ordinateurs, qui vont pouvoir travailler, qui vont pouvoir faire des recherches d'emploi. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'accueil de jour. Et puis ensuite, il y a leur appartement dans lequel ils sont hébergés, qui est encore sur un autre endroit. Il y a trois lieux.
Comment vous faites pour lutter contre l'homophobie ?
Pour lutter contre l'homophobie, eh bien, il faut en parler surtout. Et il faut se dire que d'autres choses existent que ce que vous connaissez jusque-là. Parce que j'imagine que l'homophobie ou l'homosexualité, ce n'est pas un sujet peut-être qui est forcément simple à aborder dans votre pays, dans votre culture. Et les pays qu'on a pu évoquer, que ce soit l'Albanie, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Algérie, ne sont pas des pays qui sont très ouverts à cette question de l'homosexualité de manière générale. Donc c'est important de voir que ça existe et que ces personnes, en France où vous êtes, elles ont des droits. Elles ont une existence, elles ont une reconnaissance de leur existence à elles et on doit les respecter. Comme vous, on n'a pas le droit de vous insulter, de vous frapper parce que vous avez une origine différente, parce que vous avez une nationalité différente. Ce n'est pas possible. Ben pour les homosexuels, c'est pareil.
Est-ce que vous aimez votre travail ?
Alors oui, j'aime mon travail et c'est un travail très enrichissant. C'est-à-dire que c'est un travail où on découvre beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses aussi, on apprend beaucoup de choses sur les autres, on apprend aussi beaucoup de choses sur soi. Et c'est un très beau travail, un très beau métier que je fais. Je suis content de le faire.
Merci, au revoir, monsieur.
Au revoir et merci à vous tous.
En Ouzbékistan, j'allais à l'école jusqu'à 14h. Et 4 après-midi par semaine, j'allais à l'école d'art. J'apprenais à dessiner des portraits, des paysages et des natures mortes, au crayon ou à la peinture. Je dessinais plus quand je vivais en Ouzbékistan. Ici, en France, nous habitons à 12 dans une seule maison. Il y a ma mère, ma sœur, mon oncle et sa famille, ma tante et sa famille et mes grands-parents. En Ouzbékistan, nous habitons tous à côté. Mais chacun avait sa maison. C'était plus confortable. J'habitais avec ma sœur et ma mère, et j'avais une chambre pour moi toute seule. Je pouvais dessiner autant que je voulais. En France, je ne peux pas fermer la porte et dire « Ne me dérangez pas, je dessine », parce que c'est pas seulement ma chambre. Je n'aime pas trop être seule, j'aime être avec ma famille. Mais pour dessiner, je préfère que personne ne soit à côté de moi et ne me regarde. Dessiner, ça me rend heureuse. Et pour ça, j'ai besoin d'avoir des moments seuls. Des moments pour moi.
Bonjour, je m'appelle Bello et je viens d'Albanie.
Et je m'appelle Jacques Laborieux, je suis océanographe. Maintenant, on ne dit plus océanographe, mais océanologue. Et en fait, je suis un scientifique qui a étudié la mer, enfin autant au niveau physique que biologique. Et un jour, j'ai fait le pas, j'ai acheté un bateau et c'est comme ça que le voyage a commencé. Quoi.
Quel était le voyage que vous aviez prévu de faire avec votre bateau en 2000?
Alors, je partais d'Hawaï et théoriquement, je voulais aller jusqu'à Brisbane en Australie. Et deux jours avant de m'échouer sur Canton Island, j'avais fait l'inventaire du bateau, l'inventaire de la nourriture sur le bateau, et je m'étais rendu compte que j'avais encore 3 mois pour manger. Donc j'ai décidé d'aller directement jusqu'à Madagascar. J'avais l'habitude de naviguer en Polynésie, où les îles basses, on voit les cocotiers à 10 ou 12 milles, de à peu près 20 km avant d'arriver sur l'île. Là, je suis descendu dans la cabine et j'ai lu pendant 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, c'est une vue. À l'allure où allait le bateau, c'était 4 km, 5 km. Donc, en 4 km, on voit quelque chose. Et quand le réveil a sonné, le bateau il est monté sur l'atoll. Une île dans le Pacifique, c'est quelque chose au-dessus de l'eau. Un atoll, c'est au niveau de l'eau. Si j'avais été plus assidu, en fait, je pense,
quand je suis descendu lire, j'aurais dû voir quelque chose. Et pendant 3 jours, j'ai essayé de le remettre à flot. Et le 3e matin, il était ouvert. Enfin, l'eau était rentrée dedans. Donc c'est là que j'ai compris que j'allais rester sur l'île. Quoi. Je suis resté 28 jours tout seul. Et après, j'ai vécu pendant 3 mois avec les gens sur l'île.
Quel était le moment où vous avez eu le plus peur ?
Dans ma vie, j'ai appris que la peur, c'est quelque chose qui est négatif. Ça te provoque des mauvaises réactions. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu as peur, ton cerveau ne travaille pas du tout dans le bon sens. Donc la peur, c'est un sentiment qui se contrôle. Et moi, je ne pense pas que j'ai eu peur sur l'île.
Est-ce qu'il y a des choses que vous ne vous souvenez plus ?
C'est pas que j'ai oublié, c'est qu'il y a des idées qui m'ont traversé la tête. Je ne sais plus du tout quelles sont ces idées. Je n'ai même pas essayé de me remémorer ces idées. Mais je m'étais dit que ces idées, c'était des idées noires, que ce n'étaient pas des idées bonnes à garder dans la tête. Parce que moi, ma hantise, c'était de perdre un peu les neurones qui tournent. Hein, c'était de devenir fou. Parce que comme j'ai vu qu'il n'y avait personne sur l'île, et que je regardais aux jumelles l'horizon tous les jours, il y avait zéro bateau. Parce que ce n'est pas une ligne de navigation. Tu vois, c'est trop près de l'équateur, il n'y a pas de vent. Là. Les bateaux, ils passent soit par en bas, soit par en haut. Quoi. Et je m'étais dit, bon, je vais rester peut-être un an, 2 ans, 3 ans. Quoi. Qui sait combien de temps je vais rester sur... Il n'y a personne. Donc, je voulais absolument me donner des limites. Et c'est pour ça que je m'étais aussi interdit de parler tout seul à voix haute.
Est-ce que c'était dur d'être seul et pourquoi ?
C'est dur d'être seul parce que, en fait, d'une part, parce que quand t'as besoin d'une troisième main, t'as personne à qui te demander de l'aide. Et c'est dur aussi, c'est dans la tête. C'est qu'il y a des moments où t'aimerais bien échanger des paroles ou même pas des paroles, tu vois, des regards, des gestes, sentir que. En fait, on n'existe que parce qu'il y a des yeux d'humains qui te regardent. Hein? On n'existe que parce que les autres existent. En fait, je pense que le problème de la solitude, c'est pas tellement le fait d'être tout seul, c'est le fait de ne pas être avec les autres. Je ne sais pas si vous comprenez, là, c'est deux choses différentes. Tu es avec des gens ou tu es tout seul.
Merci d'être venu au collège.
Eh ben, merci de vous intéresser comme ça. Et puis, je vous souhaite bonne chance dans cette vie.
C'est bientôt l'heure de vous quitter, mais ne vous inquiétez pas.
Grâce à ce que vous avez appris, vous n'avez certainement plus peur de la solitude.
Vous ne serez plus jamais seul, ou seulement si vous le décidez.
Pour écrire cette émission, nous étions nombreux.
Il y avait
Mohamed,
Clarissa,
Zakaria,
Lubna,
Amine,
Daniela,
Sofia,
Ibrahim,
Elvis,
Bello,
Nane,
Fela,
Vesilda,
Denis,
Youssef.
Et nous étions accompagnés de Capucine et Elise de Wakadi et de nos professeurs, Madame Faure et Monsieur Gotel.
Un vrai travail d'équipe!
Au revoir!
Et au revoir!
Ciao!
Bislema!
Au revoir, à bientôt!
Wakadi, ça veut dire on a quelque chose à dire.
Oh, gira, deixa, gira, gira.